journal Loïc Barrière. Une trêve entre Israël et le djihad islamique. Après la mort d'une quarantaine de Palestiniens, dont 16 enfants, Israël a rouvert les points de passage avec Gaza. Mais le blocus israélien en vigueur depuis 15 ans se poursuit, comme nous le rappellera Ziad Medouk, professeur de français à Gaza. Trois ONG appellent l'Union européenne à mettre en place des moyens maritimes de recherche et de sauvetage en Méditerranée pour éviter de nouveaux décès de migrants. Entretien avec Sophie Beau, directrice générale de SOS Méditerranée. Enfin, le MRAP, présent ce mardi à Paris-Plage pour sensibiliser le public à la lutte contre le racisme. Nous écouterons Kaltoum Gachi, avocate et coprésidente du MRAP. Après 3 jours de bombardements, Israël et le djihad islamique ont finalement conclu une trêve avec la médiation de l'Égypte. Trêve entrée en vigueur ce lundi. Les opérations israéliennes qui avaient débuté vendredi ont fait une quarantaine de morts, dont 16 enfants, parmi lesquels une fillette de 10 ans décédée de ses blessures ce lundi. On dénombre aussi plus de 300 blessés. Quant à l'unique centrale électrique de la bande de Gaza, elle a redémarré après la livraison de carburant depuis Israël. La frontière entre la bande de Gaza et Israël a rouvert, mais le blocus israélien en vigueur depuis 15 ans continue à peser sur la vie des Palestiniens. On écoute Ziad Medouk, professeur de français à Gaza.
Le blocus, ça veut dire la fermeture totale de tous les passages. Auparavant, il y avait 5 points de passage pour qui reliaient la bande de Gaza. Aujourd'hui, il y a seulement 2 passages. Auparavant, avant 2007, avant le début du blocus, il y avait un passage pour les carburants, un passage pour les produits alimentaires, un passage pour les marchandises, un passage pour l'exportation, la sortie des fruits et des légumes de Gaza. Mais actuellement, il y a un seul passage. Donc, il y a une pression sur le passage, notamment de Kerem Shalom. Et deuxième chose, le passage de Beit Hanoun, il est limité. Donc chaque jour, il y a entre 60 à 100 personnes qui utilisent ce passage. En majorité, donc, les organisations internationales. Donc, le blocus israélien inhumain, ça veut dire fermeture totale des passages. Ça veut dire la non-entrée. Il ne faut pas oublier qu'il y a plus de 1300 produits qui n'entrent pas à la bande de Gaza par ordre militaire israélien. Et donc, il y a des conséquences graves sur la population. Le blocus israélien, ça veut dire empêcher les Palestiniens de quitter les territoires de Gaza. Le blocus de Gaza, ça veut dire empêcher les Palestiniens de faire sortir leurs fruits et légumes de qualité. Le blocus de Gaza, ça veut dire freiner donc la croissance économique de cette économie fragile en dégradation à cause des agressions. Blocus, ça veut dire attaquer. La marine israélienne attaque au quotidien les bateaux de pêche et tire sur les pêcheurs. Et surtout, le blocus, il y a un blocus maritime, ça veut dire il y a un blocus qui empêche, ça veut dire les pêcheurs d'aller en plus de 6 miles dans la mer de Gaza. Encore le blocus, ça veut dire empêcher les paysans d'aller travailler sur leur terrain et sur leur terre, sur les frontières, donc dans l'est, l'ouest et le centre de la bande de Gaza. Donc le blocus, et il y a plusieurs formes de blocus, mais je pense que le blocus, c'est une politique de punition collective, donc prise par l'autorité israélienne pour mettre la pression sur cette population civile. C'est la seule perdante de ce blocus inhumain, qui a des conséquences économiques, psychologiques et sociales très graves, c'est la population civile. Plus de 2 millions de Palestiniens qui souffrent de ce blocus parce qu'ils peuvent pas aller, les étudiants peuvent pas aller poursuivre leurs études dans les universités étrangères à cause de ce blocus. Les malades et les patients peuvent pas sortir pour se soigner dans les hôpitaux à cause de ce blocus. Donc, le blocus, c'est enfermer les Palestiniens dans une prison à ciel ouvert. C'est une classe palestinienne qui continue à s'accrocher à la vie malgré donc le blocus et ses conséquences graves sur toute la population civile.
Ziad Medouk, professeur de français à Gaza. Au Mali, au moins 4 soldats tués ainsi que 2 civils et 5 assaillants dans une attaque qui s'est passée dimanche. Des groupes djihadistes ont lancé une attaque dans le secteur d'un camp militaire à la frontière entre le Mali, le Burkina Faso et le Niger. En Algérie, 6 migrants sont morts près des côtes algériennes après le naufrage de leur embarcation. 6 autres ont été secourus et d'autres sont portés disparus. Le drame a eu lieu près de Baïnem, à quelques kilomètres à l'ouest d'Alger. SOS Méditerranée, MSF et Sea-Watch alertent sur le risque de nouveaux décès en Méditerranée en cette période estivale. Les trois ONG réclament de toute urgence le déploiement de moyens maritimes de recherche et de sauvetage des États européens, notamment au large de la Libye. Entretien avec Sophie Beau, directrice générale de SOS Méditerranée.
Nous demandons des choses que nous répétons depuis plusieurs années, mais qui sont particulièrement pressantes cet été, vu la situation critique en mer Méditerranée. D'abord, la première chose que nous demandons, c'est qu'il y ait une réponse européenne des États sous forme de flotte de recherche et de sauvetage adéquate en Méditerranée centrale, parce qu'il y a énormément de traversées et, comme vous le savez, toujours une très forte mortalité. Donc c'est le premier point très important, il manque des bateaux de sauvetage. On ne peut pas couvrir la zone avec les quelques navires humanitaires présents qui ne suffisent pas, qui sont pris très rapidement par des sauvetages et qui ensuite doivent aller débarquer jusqu'en Sicile, sont bloqués plusieurs jours pendant les escales, etc. Donc ça ne suffit absolument pas les moyens de sauvetage. Ça c'est le premier point. Ensuite, ce qu'il faut, c'est un système de coordination des secours qui soit remis en place, un système fonctionnel en Méditerranée centrale, parce qu'aujourd'hui, cette responsabilité échoit aux gardes-côtes libyens, qui ne sont pas du tout en capacité de coordonner les secours de manière efficace. Ils ne nous transmettent pas les appels de détresse, ils ne mobilisent pas des moyens de secours, et quand bien même ils vont eux-mêmes intercepter les embarcations, qui sont partis de Libye, ils les ramènent dans cet enfer libyen que les personnes cherchent justement à fuir. Donc c'est un vrai problème sur la coordination des secours. Il faut donc que les États puissent répondre à tous ces appels de détresse. Il faudrait remettre en place un mécanisme de coordination. Dernier point, c'est que nous demandons à ce qu'un mécanisme coordonné européen de débarquement soit mis en place pour que les personnes n'aient pas à attendre des jours et des jours en mer la désignation d'un port sûr par les autorités européennes, ce qui bloque autant de temps nos bateaux sans être opérationnels en mer.
Alors l'opération Mare Nostrum s'est arrêtée en 2014. Comment imaginez-vous cette flotte européenne que vous appelez de vos voeux?
L'opération Mare Nostrum, c'était une opération de la marine italienne qui avait mis en place plusieurs navires de recherche et de sauvetage, des moyens aériens pour le repérage des embarcations en détresse. Cette opération avait prouvé son efficacité puisqu'ils ont pu secourir plus de 150 000 personnes en détresse en un an d'opération. Donc maintenant, est-ce que c'est à un seul État faire ces efforts-là? Pas forcément, ça pourrait être plutôt une flotte européenne où des moyens conjugués soient mis en place conjointement par les États européens. En fait, peu importe, je dirais, la nationalité des navires, mais il faut des navires de sauvetage présents et puis des moyens de détection aérienne, parce que comme je le disais, aujourd'hui, il n'y a plus de coordination des secours en Méditerranée centrale qui soit efficace. On travaille à l'aveugle, il n'y a pas de signalement des embarcations en détresse.
Est-ce que vous avez le sentiment que votre appel peut toucher l'opinion publique à défaut des gouvernements?
Alors, en ce qui nous concerne, nous sommes une organisation de sauvetage en mer et ce sont des questions de vie et de mort dont on parle. On ne parle pas des politiques migratoires à mettre en place ensuite qui sont complexes, sur lesquelles les débats sont compliqués et ce n'est pas notre sujet. Nous parlons de sauver des vies en mer. Si nous ne portons pas secours à ces personnes qui sont en péril sur des embarcations en détresse, c'est la mort qui les attend. Depuis le début de l'année, il y a déjà plus de 900 morts qui sont décomptés par l'Organisation internationale des migrations sur l'axe maritime de Méditerranée centrale, qui, je le rappelle, est le plus meurtrier au monde. Ce sont des estimations à minima qui, en fait, ne comptent même pas tout les embarcations qui ont chaviré, puisque beaucoup d'entre elles chavirent sans aucun témoin, et on ne peut même pas décompter toutes les personnes disparues. Donc, en fait, là, on parle vraiment d'une situation critique de vie et de mort, et je pense qu'il n'y a pas de débat. C'est un impératif légal, puisque c'est une obligation du point de vue du droit maritime international d'aller porter assistance, mais c'est aussi une obligation morale que de porter assistance à des personnes qui sont en danger de mort. Et ensuite, les questions migratoires, c'est un autre sujet à débattre dans les pays concernés.
Alors, SOS Méditerranée rappelle souvent que l'attente en mer pour les personnes qui ont été secourues est beaucoup trop longue.
Alors effectivement, malheureusement, depuis que l'Italie n'a plus la gestion de cette coordination des secours en Méditerranée centrale, ce sont donc les Libyens qui sont censés faire cette coordination, et ils ne sont en fait pas en capacité de nous désigner un port sûr, puisque, comme je le disais plus tôt, les côtes de Libye n'offrent pas de port sûr pour ces rescapés de nos sauvetages. Les personnes qui fuient la Libye, fuient des exactions d'une extrême violence qui sont commises à l'encontre des migrants, des extorsions de fonds, des tortures, des viols, l'esclavage. Tout ça a été documenté à de nombreuses reprises et est bien connu. Donc les Nations Unies le rappellent, hein, il n'y a pas de port sûr en Libye et il n'est pas possible de désigner un port en Libye pour accueillir ces rescapés. Du fait de ce système qui est totalement incohérent, où la Libye maintenant est en charge de coordonner les secours, et donc ils ne sont pas en capacité de désigner un port sûr, nos bateaux se voient dans l'obligation, une fois qu'on a fait un sauvetage et qu'on attend que les autorités maritimes compétentes nous désignent un port, on est obligé d'attendre des négociations entre États européens qui prennent des jours et des jours et qui imposent en fait de très longues attentes supplémentaires aux rescapés. Et c'est cette situation qui est tout à fait inacceptable et indigne, qui ne correspond pas d'ailleurs à l'esprit du droit maritime, hein, qui veut que les pays côtiers ouvrent un port sans délai pour décharger les capitaines de leurs responsabilités une fois qu'ils ont accompli un sauvetage.
Et vous redoutez de nouveaux drames en mer à cette époque de l'année qui est plus propice à la navigation ?
Exactement, nous redoutons qu'il y ait de nouveaux naufrages puisque ces embarcations continuent à traverser. On sait que pendant l'été, les conditions météorologiques sont plus favorables au départ puisque la mer globalement est plus calme. Néanmoins, les dangers de cette traversée sont immenses. Il faut rappeler qu'il s'agit de 400 km de mer, de haute mer à traverser sur des embarcations qui sont en général inaptes à cette navigation en haute mer. Donc les dangers sont immenses, les personnes se retrouvent en péril très rapidement, et donc nous redoutons effectivement de nouveaux drames. Les quelques navires humanitaires ne peuvent pas couvrir cette zone immense de détresse. Nos navires sont bloqués en plus en attendant parfois pendant une semaine, 8 jours, 9 jours, jusqu'à 10 jours, les ports sûrs désignés finalement en général par l'Italie. Et donc, il n'y a pas la capacité suffisante aujourd'hui pour répondre aux besoins. Donc, il est urgent de faire quelque chose pour que ça change, en fait, parce que ça fait des années que cette situation n'est pas prise en compte par les autorités européennes.
Sophie Beau, directrice générale de SOS Méditerranée. Gérald Darmanin annonce une intensification des contrôles dans toute la France pour lutter contre les rodéos urbains. Le ministre de l'Intérieur dénonce des actes criminels qui viennent de blesser très gravement des enfants à Pontoise ce week-end. 10 000 contrôles seront effectués au mois d'août, promet Gérald Darmanin. Le MRAP sera présent ce mardi à Paris-Plage entre 13h et 18h pour sensibiliser le public à la lutte contre le racisme. Nous écoutons Kaltoum Gachi, avocate et coprésidente du MRAP.
Ce mardi, en effet, le MRAP sera présent à Paris-Plage. Ça fait plusieurs années que le MRAP tient une sorte de stand à Paris-Plage, Canal de l'Ourcq, métro Stalingrad dans le 19e. C'est l'un des comités locaux du MRAP qui gère l'événement, le comité des 19e et 20e arrondissements de Paris. Et il y aura un certain nombre de petites activités proposées. Il y aura un petit atelier maquillage pour les enfants, des livres à consulter, des livres évidemment axés sur la lutte contre le racisme sous toutes ses formes, avec des petits quiz aussi à destination des petits et des grands. Où la fois d'avant, il y avait un arbre où les enfants en particulier pouvaient laisser des messages de fraternité. Et puis, on procède aussi à la lecture de certains texte de sensibilisation à la lutte contre le racisme et à la promotion de l'égalité.
Alors cette présence à Paris-Plage s'inscrit dans le travail mené par le MRAP, notamment dans les écoles. Il s'agit de sensibiliser le public à la thématique de la lutte contre le racisme. C'est aussi l'occasion de faire connaître la loi 40 ans après la loi Pleven.
C'est exactement ça. C'est une occasion assez ludique, assez festive de sensibiliser les jeunes, mais pas seulement, hein, à la lutte contre le racisme. Et c'est vrai que bon, c'est un événement qui est assez partagé par les Parisiens, mais pas que. On profite aussi de cette occasion pour marquer notre présence et faire en sorte que la lutte contre le racisme, plus que jamais nécessaire sans doute, puisse aussi être de la partie.
Après plusieurs années d'absence, le MRAP reviendra à la fête de l'humanité à la rentrée. Votre association veut être plus présente sur le terrain pour mener tous ces combats ?
Oui, tout à fait. Alors, on est déjà présent sur le terrain, notamment à travers les procès que l'on mène contre les auteurs de propos ou d'actes racistes. Mais c'est vrai, vous avez parfaitement raison. À la fête de l'UMA, ça faisait quelque temps que le MRAP n'avait pas tenu un stand. Donc, on a tenu à de nouveau être présent à cet événement qui est un événement capital. On animera sans doute aussi un débat qui se situera évidemment dans le prolongement de notre objet social de la lutte contre le racisme, mais pas seulement. Le MRAP aussi est attaché au travail qui est effectué sur le devoir de mémoire, notamment s'agissant de la guerre d'Algérie. Et il est assez probable que nous participions à un débat sur le musée du colonialisme, de manière à ce que la mémoire par rapport à cette guerre puisse être relayée, comprise, et qu'un vrai travail soit effectué sur cet épisode qui reste un épisode douloureux et qui peut aussi peut-être expliquer certaines choses.
Kaltoum Gachi, avocate et coprésidente du MRAP. Le MRAP est présent à Paris-Plage ce mardi entre 13h et 18h sur les quais de Seine, métro Stalingrad ou Riquet. Le musée Horniman de Londres va restituer au Nigeria des œuvres pillées au XIXe siècle. Parmi ces objets, 12 plaques de bronze, des éventails, des paniers et une clé du palais du roi. Enfin, les températures sont un peu redescendues ce week-end, mais Météo France prévoit un nouvel épisode de très forte chaleur. Le pic de la canicule en France est prévu vendredi. Cette édition est terminée. Merci d'être fidèle à Radio Orient.